France Musique. Le Festival France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour à tous. Le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, vous voyez, eh bien, il me fait un peu penser à lui, Xavier. Tous les midis, depuis un mois, à la fin de l'émission, je prononce son nom au moment de ce qu'on appelle dans notre jargon la désannonce technique. Mais derrière cette fonction d'attaché de production, Xavier Carrère, car c'est de lui qu'il s'agit, est un peu l'âme de cette émission. Depuis qu'en plein confinement, avec la direction de France Musique, on a imaginé cette émission de musique vivante, inédite, ce festival de radio pour que les musiciens jouent pour vous dans nos studios. À défaut d'un été plein de concerts, Xavier a contacté les musiciens, avec eux il a échangé, discuté sur les programmes. En compagnie de la précieuse Marjolaine Portier-Kaltenbach également, il a organisé méthodiquement 80 sessions musicales, s'est occupé des pianos alloués, de notre accordeur dévoué, des lieux en extérieur à trouver, des contrats à signer, car oui, les artistes sont payés. Un homme indispensable qui préfère l'ombre, une culture hors du commun, une oreille sensible et un ami fidèle. Alors pour moi de faire ma valise, au nom de tous les artistes qu'il défend avec passion, je tenais à tirer notre chapeau, ce chapeau qu'il porte si bien, à Xavier Carrère. Allez, assez parlé de nous, le Festival France Musique, session 37 et 38, c'est parti. Et pour notre première session, voici l'un des pianistes français les plus impressionnants de la saison qui vient de s'achever. Il s'appelle Selim Mazari. À 27 ans, cet ancien élève de Brigitte Enguerrer, il fut d'ailleurs l'un de ses derniers élèves, de Claire Désert également, avec laquelle il a travaillé. Il a été nommé Selim Mazari en 2018 dans la catégorie Révélation soliste, victoire de la musique classique, également prix de la Fondation Safran pour la Révélation Adami. Ce musicien au jeu passionnant a enfin cette année sorti son premier album solo, album consacré à plusieurs cycles de variations de Beethoven, dont les célèbres Eroica chez Mirare. Il a d'ailleurs remporté pour cela un diapason d'or. Pour le Festival France Musique, Selim Mazari a choisi de célébrer Beethoven avec l'une de ses sonates les plus fameuses, l'opus 27 numéro 2 en do dièse mineur. Mais si, vous savez, c'est la claire de lune. Selim Mazari joue pour les micros de France Musique au studio 119 de la Maison de la Radio. Bon festival. Thank you. presque une fantaisie en trois mouvements, Adagio sostenuto, Allegretto et à l'instant Presto agitato, Beethoven, la sonate au clair de lune, la sonate numéro 14, opus 27, numéro 2, Céline Mazari au piano. C'était à la Maison de la Radio pour le festival France Musique. Bonjour Céline Mazari.
Bonjour.
Pas de concert sans Beethoven depuis la reprise de la vie musicale post-confinement. Quand je regarde vos programmes de tous vos concerts, il y a du Beethoven absolument partout.
Parce que c'est, je crois que c'est une année importante, non? Elle a été certes très
importante. J'ai cru entendre dire, oui.
Il s'agirait quand même de rendre hommage et de souhaiter à travers chaque concert l'anniversaire de la naissance des 250 ans de Beethoven.
Pourquoi avoir choisi de nous offrir cette sonate-là?
À vrai dire, je ne sais pas. Je trouve que c'est un programme bien équilibré. J'ai pas mal de Beethoven dans les doigts en ce moment. Alors on varie. Voilà. Je crois que c'est important de manger équilibré et varié.
Alors mangeons équilibré et varié. On pourra manger équilibré et varié. Vous la jouerez cette sonate Céline Mazari à Lens, au Festival du Louvre-Lens le 27 septembre et à Sceaux, à l'Orangerie de Sceaux le 1er octobre. Programme viennois pour nous ce midi. Vous qui vivez à Vienne, c'est là d'ailleurs que vous avez passé le confinement. Vous nous en aviez parlé un matin il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, où vous êtes revenu en France.
Exactement, là je suis actuellement en Normandie, donc très très loin de cet esprit musical viennois. Mais c'est très très bien aussi de se déconfiner dans cette région.
Vous avez toujours continué à travailler pendant le confinement, pendant cette période sans concert, est-ce que vous avez nourri d'autres projets?
J'ai beaucoup, à vrai dire, faut se rappeler quand même, maintenant que le confinement, on savait pas forcément combien de temps ça durerait. Donc au début, j'ai perdu, enfin perdu, on perd jamais de temps en travaillant, mais j'ai travaillé.
Ah, on a perdu Céline Mazari. Ah non, vous êtes revenu. Oui,
pardon,
oui, vous êtes revenu, vous êtes là.
Non, je disais, j'ai passé donc le plus clair de mon temps au début de ce confinement à travailler des programmes qui s'annulaient au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai au début mis du temps avant de travailler vraiment de nouvelles choses en sachant que pas de concert avant longtemps. Et puis ça m'a permis aussi de développer, là on peut être des projets autour de l'opéra, on va voir ces prochains moments. Et puis il y a eu aussi des choses qui se sont rajoutées au dernier moment. J'en profite pour saluer le Quatuor Modigliani et David Frey qui m'ont invité pour leur festival au Potager du Roi à Versailles, dans lequel j'ai joué avec le Quatuor Modigliani, quintette de Schumann. Donc voilà, beaucoup de choses un petit peu imprévues et aussi des graines qu'on sème et qui pousseront et qui j'espère m'apporteront des choses intéressantes dans les prochains mois, voire prochaines années.
Et parmi les graines semées, il y a ce disque magnifique, formidable, disque Beethoven, des variations sorties en tout début d'année, dont on parlait en début d'émission. Quand vous avez joué à Versailles, vous évoquiez cela, c'était votre premier concert depuis des mois.
C'est mon premier concert avec...
C'est quelle émotion particulière? Avec public, oui, puisque vous êtes venu, bien sûr, ici jouer à la Maison de la Radio pour l'intégrale Beethoven et puis pour notre festival également.
Alors, voilà, c'était la première fois que je retrouvais le public. Je dois être honnête, j'ai beaucoup traqué avant, comme on dit. J'étais assez anxieux, voilà, perte de repères, pas forcément eu le temps aussi de rôder, ce genre de choses. Donc, on redécouvre un peu le métier. Et après, à la fin, c'est un bol d'air frais aussi, c'est des bonnes sensations. Je dois admettre que même si... C'est un plaisir fou de jouer toujours à la radio. Je dois admettre que je me sens vraiment comme artiste du spectacle vivant. Et j'ai besoin de sentir justement un public, j'ai besoin de sentir cette espèce de magie qui se passe, qui se produit lorsque ne serait-ce que 5, 10, 15 personnes écoutent. Alors heureusement, c'était quand même plus rempli, mais ça m'a fait un bien fou et ça m'a aussi rappelé quand même à quel point ça m'avait manqué.
Le public sera là le 18 août à la Roque d'Anthéron où vous jouerez Céline Mazari, également à Saint-Émilion au couvent des Jacobins. C'est le festival Grand Cru Musicaux le 29 août. Et puis je le disais, Lens les 26 et 27 septembre, l'Orangerie de Sceaux le 1er octobre. Et puis à nouveau à la Maison de la Radio. On vous aime ici à Radio France, à l'auditorium de Radio France avec Augustin Dumay au violon et le quatuor Diotima dans la musique de Chausson. Ça fait quand même quelques vacances inattendu pour un musicien comme vous dont la carrière explose comme ça l'été. Vous en profitez un petit peu?
Je m'organise un petit peu à la dernière minute. Vous savez, on n'est jamais vraiment complètement en vacances. Il y a deux types de personnes autour de moi. Il y a ceux qui pensent que je suis tout le temps en vacances, et puis ceux qui pensent que je suis jamais en vacances.
Et ceux qui vous demandent quel est votre vrai métier.
Voilà, c'est ça. Non, Dieu merci, quand même, c'est de plus en plus rare, ce genre de questions. Mais, voilà, je vais partir un petit peu, je vais souffler, mais jamais vraiment très très loin du piano. Parce que l'été, c'est toujours une période très remplie, c'est une période toujours assez chargée pour les musiciens. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de souffler en septembre. Et là, on sort d'une période pas vraiment de travail, puisque ce confinement, je pouvais pas vraiment travailler comme je le voulais. Et puis ensuite, cet été qui n'est pas vraiment non plus des vacances. Voilà, c'est une période étrange, mais qui quand même me permet aussi de profiter peut-être plus de ces deux mois, de ce mois de juillet et d'août, plus que d'habitude.
Merci Céline Mazari. Après Beethoven, vous avez choisi un bis. On est toujours à Vienne. Vous nous le présentez, ce bis, comme quand vous êtes sur scène devant un public. Mais le public est là, on a beaucoup d'auditeurs.
Ah bah pour moi c'est un petit bonbon. C'est donc d'après une pièce de Fritz Kreisler qui s'appelle Liebeslied. Une pièce qu'il a écrite environ dans les années au tout début du XXe siècle, 1904-1905. C'est dans un recueil de trois pièces, des vieux airs des vieilles danses viennoises. Et Kreisler, c'était vraiment ces petits bis, ces espèces de petites sucreries qu'il faisait à la fin de ses concerts. Et Rachmaninoff, on a fait un arrangement en 31 qu'il lui a lui-même enregistré, que je vous invite quand même à écouter, et qui est tout à fait redoutable, comme toujours chez Rachmaninoff. Parfois, les transcriptions sont parfois plus difficiles que certaines pièces qu'il a écrites pour piano. Mais malgré tout, il y a cette espèce de larmes, sourire aussi qui est respectée, cette espèce de cet esprit nostalgique de Vienne qui est particulièrement touchant et qui fait que cette pièce est un petit peu plus qu'un bis.
Liebeslied, chagrin d'amour, la deuxième partie, plus qu'un bis. C'est Kreisler et Rachmaninoff, c'est Céline Mazari au studio 119 de la Maison de la Radio. Merci Céline Mazari, à très bientôt. Thank you. Rien d'autobiographique, j'espère. Chagrin d'amour, Liebeslied, Fritz Kreisler, arrangé par Rachmaninov. C'était la session de Selim Mazari au Festival France Musique, avec Marie Le Peintre et Ludwine Caron à la prise de son, Gilles Blanchard à la réalisation.
Le Festival France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Midi et demi et 20 secondes pour notre seconde session, une première, une rencontre, avec d'abord l'un des clarinettistes les plus doués, les plus profonds aussi, habité, musical jusqu'au dernier souffle, c'est Pierre Génisson. À 34 ans, Pierre Génisson est un ancien élève de Michel Arignon au Conservatoire supérieur de Paris, en musique de chambre, comme Selim Mazari d'ailleurs. Il a travaillé avec Claire Désert, mais aussi Jean Sulem. Sur son dernier disque, il rend hommage à Benny Goodman avec le BBC Concert Orchestra, classique et jazz, Copland, Bernstein, Goodman et puis Stravinsky. Pour le Festival France Musique, Pierre Génisson, pour la première fois, joue avec David Cadouche, grand pianiste français. Il sera d'ailleurs lui-même en solo avec Saskia Deville lundi dans le Festival France Musique. Ils ont choisi de jouer pour nous une œuvre des plus populaires, l'une des plus populaires de Serge Prokofiev. C'est la seconde sonate pour flûte et piano, également connue pour violon et piano. Beaucoup moins dans cet arrangement clarinette-piano. Et c'est magnifique, cette musique aux teintes parfois néoclassiques prend ici de toutes nouvelles couleurs. Voici la sonate opus 94 en ré majeur de Prokofiev, ici à la clarinette et au piano. Andantino, allegro, andante, allegro con brio. Pierre Génisson à la clarinette, David Cadouche au piano sont sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio. C'est toujours le Festival France Musique. Thank you.
Thank you.
Serge Prokofiev, la sonate opus 94 en ré majeur, ici pour clarinette et piano. On va voir d'ailleurs si elle est en ré majeur dans cette version. Pierre Génisson à la clarinette, David Cadouche au piano. Une session du festival France Musique enregistrée par Jean-Michel Bernaud et Valentin Zemlinski avec Adrien Roch à la réalisation. Session que vous retrouverez dans quelques jours en vidéo sur les médias sociaux et sur francemusique.fr. En ligne avec nous ce midi sur France Musique, Pierre Génisson. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Baptiste, comment allez-vous?
Ça va et vous? Quel souffle, quelle couleur, quelle éloquence, cette sonate. D'ailleurs, c'est quelques mots de cet arrangement, de cette sonate écrite à l'origine par Prokofiev pour la flûte. Il existe une célèbre version ensuite pour le violon. Et ici?
Bien sûr. Oui, et là, donc, elle a été transcrite par Ken Kenan à la base pour clarinette et orchestre. Et en fait, la version que nous avons faite avec David Cadouche était donc, en fait, David jouait la partie pour flûte, la partie piano qui accompagnait normalement la flûte, et j'ai repris avec certains aménagements et arrangements la partie donc de clarinette avec orchestre. Voilà. Donc c'était un savant mélange entre les deux versions, en fait, la version pour clarinette et orchestre et la version pour flûte et piano.
Vous l'aviez déjà joué, Pierre Génisson, cette pièce, cette date?
Alors absolument pas, c'était une immense première, que ce soit pour moi, que ce soit pour David, et même la rencontre avec David sur scène était sur cette sonate lors de cet enregistrement il y a quelques jours. Ça a été un grand bonheur de faire cette démarche qui a débuté en fait pour moi pendant le confinement. C'était le moment où je me suis comme chacun retrouvé face à moi-même et face à mes envies de découvrir un répertoire nouveau, d'élargir le répertoire de la clarinette qui n'est évidemment pas infini, même si on a quand même beaucoup de chance. Et voilà, c'est vrai que Prokofiev a toujours eu une affinité avec la clarinette. Il a écrit d'ailleurs merveilleusement bien pour l'instrument, notamment dans ses pièces pour orchestre. Mais c'est vrai qu'il avait très très peu écrit de musique de chambre, à part son quintette et les thèmes juifs. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de petite frustration pour moi de ne pas pouvoir jouer sa musique davantage que ce que je peux le faire avec le répertoire écrit pour l'instrument. Et donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers cette version qui existait déjà pour clarinette et orchestre, et que j'ai voulu vraiment travailler et démarrer en fait pendant ce confinement. Voilà.
Et ben donc c'est chose faite, et cette rencontre aussi avec David Cadou, j'imagine que vous allez continuer à jouer tous les deux, David et vous.
Moi, David, c'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, et ça faisait longtemps qu'on voulait collaborer ensemble. France Musique nous a permis de nous réunir, et évidemment c'est quelque chose qui va continuer. On a quelques concerts l'année prochaine ensemble, et voilà, c'était pour moi une immense joie de pouvoir commencer vraiment ce travail. C'est vraiment un début, hein, et c'est une grande joie pour moi. Oui.
On est heureux que le Festival France Musique soit aussi le coup d'envoi de collaborations, de nouvelles œuvres travaillées. Il y a un musicien il y a quelques jours qui me disait que un programmateur de concert l'avait contacté en entendant une interview ici à midi qui il racontait qu'il avait travaillé pendant le confinement une œuvre. Bah, comme vous, voilà, on est un maillon de la chaîne. Pierre Génisson, la vie musicale reprend. D'ailleurs, j'ai vu des jolies photos sur les réseaux sociaux où vous avez même fait des croisières musicales. Vous avez eu l'air de bien vous amuser. Ça reprend donc, y compris les croisières musicales.
Oui, Dieu merci. Mais en fait, la semaine dernière, effectivement, je reprenais les activités depuis 4 mois qui s'étaient évidemment, comme tout le monde, arrêtées. Donc j'étais en croisière musicale sur un bateau du Ponant avec Nemanja Radulovic, Laure Fabre-Kahn, Camille Thomas, Anaïs Godemar. Et c'est vrai que c'était une grande joie de retrouver un public, même si c'est dans une forme un peu particulière, puisque c'est pas une salle de concert à proprement parler. Mais par contre, les concerts reprennent dès dimanche, là, au Festival de Bussy, puis en Italie, à Nice, également à l'Abbaye de Fontfroide, où je crée un festival du 13 au 15 août, avec notamment Geneviève Laurenceau, Yann Le Vionnois, Alain Pétron, Samuel Parent et Delphine Edan. Voilà,
donc 13, 14, 15 août à l'Abbaye de Fontfroide.
Voilà, c'est ça. Et puis voilà, le Périgord noir. Enfin, il y a quelques
Sarlat le 20 août. Vous serez aussi à Nice avec le Quatuor Modigliani le 9 août, et vous le disiez, le 26 juillet au Festival Debussy. Voilà pour l'été, la vie musicale qui reprend. Merci pour cette belle session, Pierre Génisson, qu'on retrouvera en vidéo prochainement sur francemusique.fr. À très bientôt. C'est la fin du festival France Musique. C'était Stéphane Poitevin et Julien Calvas à la technique aujourd'hui. Arnaud Chapat à la réalisation. Marjolaine Portier-Kaltenbach et Xavier Carrère à la production. Demain, Emmanuel Rosfelder et Amanda Favier et ses amis pour deux sessions musicales qui seront les dernières en ce qui me concerne. Et puis ça continuera à partir de lundi. Et d'ailleurs, dès lundi, avec Saskia Deville, une session de David Cadouche. France Musique, c'est également le week-end, bien sûr, avec parmi les rendez-vous, gros zoom américain, vous aurez à 11h, comme tous les samedis, année 20, musique folle, Priscille Lafitte. Et puis à 16h, ne ratez pas le dernier épisode de la série du 4h américain d'Antoine Baglin entre MeToo et Black Lives Matter. Pour l'heure, il est midi 59.
À réécouter sur francemusique.fr.